Et bienvenue à tous, à chacun. Et ça me fait plaisir de voir le rang des jeunes rempli là ce matin. Je suis vraiment très réjoui. Ouais, ça fait chouette. Ils ont commencé à 2, 3, des fois 4, 5, et là tout le rang est rempli. Et je pense qu'après il y aura le premier rang, le deuxième, le troisième, et après vous direz, mais c'est plus mon église ça. Ce sera leur église. Amen. Et il y a des surprises ce matin aussi par rapport aux jeunes. Il y aura 2-3 choses qui vont apparaître dans ce culte. Mais j'aimerais continuer dans ma série de messages sur le thème du regard. Où est-ce que je regarde ? Et avec vous ce matin. Alors prenez vos Bibles parce qu'on va bien creuser la Bible ce matin ensemble. C'est mon 4e et dernier message. Peut-être qu'il y en a qui nous rejoignent ce matin ou qui n'ont pas suivi les autres messages sur le regard. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de quoi on a parlé les dernières fois. Où est-ce que je regarde ? C'était où qu'on avait regardé ensemble ? Voir si, qui c'est qui se rappelle les différentes directions dans lesquelles on a regardé au travers de mes messages ? En avant et pas en arrière, voilà. Oui, c'est vrai, un des regards, c'était de regarder à travers... comme le regard d'Abraham qui voyait plus loin en fait que le regard de Lot qui était superficiel, qui s'arrêtait à son premier regard, qui ne voyait pas comme Dieu voulait qu'il voie avec un regard de foi. Ça c'était vrai, c'était un de mes messages. Ouais, ça c'est la même chose, à travers, en profondeur. Il y avait de regarder en haut, vous vous rappelez, on avait parlé de Ésaïe, c'est la grandeur de Dieu, et de ne pas regarder peut-être en bas, avec aussi tout ce qui est moins beau, surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Si on regarde un peu en bas, on a de quoi s'inquiéter. Ce monde, comment il va, et tout ce qui se passe, les difficultés que nous voyons. Alors ce matin, où est-ce qu'on peut encore regarder, d'après vous ? On a vu toutes les directions ou pas ? Regardez en diagonale. Je vous fais réfléchir ce matin, je fais un peu travailler. Hein. T'as dit quoi ? Ouais, se regarder à nous-mêmes. Ouais, j'ai pas osé le faire celui-là, mais ça pourrait être un message. On peut regarder à gauche ou à droite. À droite ou à gauche. Et ça peut nous détourner du chemin, justement. Je vais parler un peu de ça ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur un texte qui va un peu nous conduire dans notre méditation ce matin. Un texte très connu. Et si je vous dis, par exemple, « Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car je suis avec toi », ça vous fait référence à quoi ? Ah, oui, c'est vrai. Alors, je vais vous dire autre chose. Ce n'est pas Ésaïe, mais je vais citer Ésaïe. Si je vous dis... bon, tout le monde n'a pas entendu. Si je dis « Tout lieu que ton pied va fouler, je te le donne. » Josué, exactement, exactement. C'est le livre de Josué, on va lire au début du chapitre plusieurs versets, mais j'aimerais avant qu'on puisse lire ces versets, qu'on puisse juste quelques mots du contexte, si vous êtes d'accord. Alors, j'essaie d'avancer, voilà. C'est important de comprendre à quel moment on est dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est un moment charnière. Et c'est pour ça que c'est important que je vous donne 2-3 éléments. Donc il y a eu Moïse qui a sorti le peuple d'Égypte. C'est Dieu qui a envoyé Moïse, bien sûr, qui a sorti son peuple d'Égypte, qui sont allés au désert, qui a reçu la loi de Dieu au mont Sinaï. Et Moïse avait un but, hein, ce n'était pas juste de quitter l'Égypte. Dieu voulait les amener dans un bon pays. Un bon pays, selon la terminaison biblique, on dit un pays où coule le lait et le miel. Voilà. C'est la poésie hébraïque, c'est très beau, et ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut dans ce pays pour son peuple. Mais ben, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un petit couac au moment d'attaquer le pays. Le peuple n'est pas entré dans cela, et il a fallu que toute une génération passe, que toute une génération vive dans le désert pendant 40 ans, pour qu'une nouvelle génération se lève, et même un nouveau successeur qui va succéder à Moïse, qui s'appelle Josué, pour faire une deuxième tentative pour entrer dans ce pays promis. Et donc on se trouve vraiment à ce moment de succession et de passation entre la jeune Et la nouvelle génération, alors c'est un message pour vous aussi hein, ce matin, la jeune génération. Et on va voir aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est vraiment une nouvelle étape pour le peuple. Et il y a des nouvelles étapes dans nos vies. Personnelles, ce sera le cas de Josué, et dans l'étape aussi d'un peuple, d'une communauté, comme ce fut le cas pour Israël. Et ce qui est intéressant peut-être, des fois quand on dit qu'il y a la nouvelle génération qui est là, elle est plutôt en opposition avec l'ancienne qui n'a rien compris, et puis nous on a tout compris, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On va voir que dans cette nouvelle génération qui va entrer dans le pays promis, il y a à la fois une continuité et puis aussi des nouvelles choses bien sûr, mais il y a une continuité avec l'ancien. C'est comme s'il y a le vieux et le neuf qui cohabitent. Il y a par exemple quelque chose qui est absolument la même chose que ce qui s'est passé avant, c'est la traversée de la mer Rouge avec Moïse. Ils vont aussi traverser, ils sont au bord du Jourdain, donc au-dessus de la mer Morte, ils vont traverser le Jourdain pour entrer dans ce pays. De nouveau, ils traversent aussi quelque chose, un fleuve, qui sera le Jourdain. Donc il y a à la fois une continuité, mais en même temps quelque chose de nouveau. Il y a aussi une continuité avec Moïse et Josué, avec l'avant et l'après, ça veut dire que Moïse avait envoyé 12 espions, vous vous rappelez? Et Josué ne va pas en envoyer 12, donc ça va être nouveau, mais il va rester dans la continuité, il va envoyer 2 espions. Vous voyez un petit peu ces parallèles entre le nouveau et l'ancien qui cohabitent. Et il y a un changement de génération, il y a une nouvelle direction, il y a Josué, mais Josué a été le disciple de Moïse pendant très longtemps. Il a appris auprès de Moïse. Il a vécu l'ancien aussi pour pouvoir mieux entrer dans le nouveau. Amen, c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça parce qu'on n'est pas en compétition les générations, parce qu'on a un seul et même Dieu. Et le Dieu qui a été avec Moïse, il sera aussi avec Josué, mais il sera peut-être différent, peut-être, de la manière dont il a été avec Moïse. Il sera peut-être différent avec Josué, mais il y aura une continuité. Mais il y a un renouvellement, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. C'est important vraiment de comprendre ça dans une société où il y a des fractures sociales entre les générations aujourd'hui. Où on s'oppose, sur des questions d'enjeux même climatiques, où c'est violent ce qui se passe. Et bien sûr qu'il y a des torts de tous les côtés, mais c'est important de comprendre ça, que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, avec Dieu, ça se passe bien, cette continuité, ce changement, aussi en rapport avec l'ancien. Il n'y a pas de compétition entre les générations, il y a une complémentarité. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce moment vraiment charnière, dans ce moment vraiment précis, juste avant d'entrer dans cette nouveauté, cette conquête du pays? Qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? C'est intéressant de s'arrêter sur ce que Dieu va dire à Josué. Et ça va rejoindre la thématique du regard. Où est-ce que Josué va regarder? Comment est-ce que Josué va regarder? Et c'est mon premier point ce matin. C'est... Ne pas regarder à gauche et à droite ne promène pas des regards inquiets. Il faut se mettre un peu à la place de Josué. Josué a grandi avec une génération qui a vécu avec la promesse du pays promis, qui a grandi avec la promesse que Dieu va donner un pays, mais qui a grandi aussi avec l'échec des parents. Qui a grandi avec aussi le fait que mes parents n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Et toute une génération a passé, a grandi avec se dire, mais vivement qu'on puisse entrer dans ce pays. Ils vivaient dans ce désert. Il y avait, je pense, une impatience, un désir de dire, mais waouh! Et tout a été une préparation. Je pense que cette jeune génération était là, attendait qu'une seule chose, c'est de pouvoir entrer vraiment dans cette conquête du pays. Peut-être même qu'ils se sont entraînés, peut-être même qu'ils se sont formés. Et il y a eu des batailles avant. Et Josué a vécu des batailles. Par exemple, il y a eu Amalek, il y a eu différentes batailles. Tout ça pour arriver à cette ultime bataille qui est la conquête du pays. Et j'imagine un peu l'attitude dans laquelle ils étaient. Et voilà qu'on arrive à ce moment-là. Il y avait comme une attente. Ils voulaient vraiment... vivre cela. Et on arrive à cet instant T, à ce texte qu'on va lire. C'est le moment où ils vont... C'est maintenant, c'est là. Le combat est là. Et vous savez, ce n'est pas évident. Hein. Quand on s'est préparé pour quelque chose et que le moment arrive. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai fait du foot. Je sais que c'est difficile à croire en me voyant comme ça. J'ai fait du foot en club. Et je me souviens qu'on se préparait pour un tournoi. Et on travaillait dur et on s'encourageait, on dit on va les battre, on s'encourageait presque même de dire vraiment on va gagner ce tournoi, on se donnait les moyens pour y arriver. Et le jour où on arrivait au lieu du tournoi et qu'on a vu toutes les équipes, ah c'est maintenant, ah ouais d'accord, et puis ah ouais mais cette équipe elle a l'air... Ils ont l'air pas mal quand même, hein. Ils sont grands. Mais c'est normal, ils ont vraiment l'âge réglementaire. Vous voyez, on est face maintenant au moment où on va entrer dans le combat. Et il dit, mais attends, on commence à regarder à gauche et à droite. Et vous savez, dans ces moments-là, on en arrive à douter. Parce qu'on était assez confiants. Mais quand on les voit là, s'entraîner, les autres équipes, ah ouais, mais il y a du niveau quand même. Il y a du niveau. Et là, on commence à être un petit peu inquiet. Seigneur. Est-ce que, bon, c'est pas Seigneur parce que j'étais dans un tournoi de foot. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais est-ce que je suis vraiment, c'est vraiment là qu'on, est-ce qu'on va vraiment gagner? Et vous savez, dans ces moments-là, je me souviendrai toujours du chef du groupe, de l'équipe dans laquelle on était. Lui, il nous a remonté le moral. Allez, on va se battre, on va y aller. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça dans ces moments-là. Parce qu'on en a vraiment besoin dans ces moments-là. Et je vous raconterai peut-être la suite, savoir si on a gagné ou pas. Vous viendrez après moi à la fin du culte. Mais je vais avancer parce que j'ai trop de choses à vous partager. Et je pense que Josué a dû passer par ce moment-là. Il faut juste se mettre à sa place. Il succède, il prend la succession de quelqu'un qui était quand même un géant de la foi, un géant avec Dieu, Moïse. Et il a dû se poser des questions, mais est-ce que Dieu va être avec moi comme il a été avec Moïse ? Et plus que ça, il était quelque part un peu le second. Il vivait aux côtés de Moïse, il a appris à ses côtés. Et quelque part, le responsable, le chef, c'était Moïse. Donc c'était quand même une situation un peu confortable. C'est-à-dire, s'il y avait un problème, allez voir avec Moïse. Mais maintenant, c'est lui qui est en première ligne. C'est lui qui va être en responsabilité. C'est lui qui va prendre des décisions. C'est lui qui a tout ce peuple immense à gérer. Comment il était ? Dans quel état ? Maintenant, ça y est, il est en fonction. Tout ce qu'il a attendu, il a été préparé pour vivre ce moment-là, mais maintenant il l'est. Et surtout, il va affronter un peuple, les peuplades cananéennes qui seront là, qui sont des peuples quand même plus avancés technologiquement que le peuple d'Israël, qui est un peuple qui a été dans le désert, qui était un peuple d'esclaves. Il y a des villes fortifiées. Quelle expérience ils ont de la guerre, vraiment. Ils en ont un petit peu, mais il faut attaquer ces peuples qui ont l'air tellement puissants. Et j'imagine, le texte ne dit pas qu'à ce moment-là, Josué devait se dire « Est-ce que j'ai bien compris, Seigneur, tes promesses ?» Parce que humainement, c'est défiant. Il y a un vrai défi. Waouh ! Et il a dû regarder la carte et commencer peut-être à avoir un regard inquiet. Regarder de gauche et à droite de cette carte et se dire « Mais... waouh, attends, je ne me rappelais plus qu'il y avait autant de villes fortifiées après le rapport des espions. Ouh là là, et puis il y a des géants dans cette ville, t'es sûr que t'as bien vu ça ? Vous avez vu ? Dans quel... J'imagine. Alors lisons ensemble qu'est-ce que Dieu va lui dire dans ce contexte-là. On peut lire dans Josué au chapitre 1, le livre de Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Très concret, Dieu délimite ce qu'il va leur donner. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Et on a entendu ça aussi ce matin. Fortifie-toi et prends courage dans une des paroles. Car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » On saute juste les versets 7 et 8, parce qu'on va y revenir après, parce qu'ils sont un peu particuliers, justement. Ce sera mon deuxième point. Et on continue au verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. » On sent que l'insistance. « Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Incroyable tout ce que Dieu dit à Josué. Hein. C'est fort comme texte. Ce qui me frappe, ce qui m'interpelle quand je lis ce que Dieu dit à Moïse, et quelque part c'est dans tout le chapitre que ça va revenir, et on n'a pas le temps de tout le lire, c'est que c'est le verbe « donner » qui revient. Et ce verbe-là, Dieu va dire « je te donne ». Dieu va le dire 7 fois dans ce chapitre. Et je l'ai juste répertorié pour que vous puissiez le voir. 7 fois, Dieu dit, je te donne ce pays. Je donne ce pays que j'ai juré à tes pères. Je te le donne, je vous le donne. Il va le répéter au peuple. Je donne. Et même à la fin, il va dire, ce pays est votre propriété. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu à qui appartient toute la terre, donne la terre à qui il veut. Et je ne vais pas entrer dans le débat du fait que des massacres, des génocides qui sont liés à toute cette histoire, je pense qu'on a des éléments de réponse, mais on n'a pas le temps ce matin d'en parler. Mais juste vous dire qu'on doit appliquer ça de manière spirituelle à notre vie. On n'a pas lutté contre des gens, contre des personnes, mais on lutte contre des puissances, des autorités, et on prend spirituellement possession d'un pays que Dieu nous donne. Et par rapport aux promesses que Dieu nous a faites, que Dieu nous fait, Dieu nous dit ce matin, en tant qu'Église de Jésus-Christ, il y a un pays promis, il y a un héritage à saisir. Et cet héritage qu'on a, Dieu nous le donne. Dieu nous le donne. Ce n'est pas quelque chose est-ce que je peux avoir ça ou pas ? Dieu nous le donne. Et pourtant, ils ne l'ont pas encore, mais Dieu le déclare. Et je pense que c'est très important d'avoir une attitude, en tant que chrétien, dans notre vie chrétienne, dans ce que Dieu nous demande, dans ce que Dieu nous appelle à faire, d'avoir une mentalité de propriétaire et pas une mentalité de locataire. Trop souvent, dans notre vie chrétienne, on est dans une mentalité d'esclave. Et Dieu appelle ce peuple qui a été esclave dans un pays, qui a souffert l'esclavage, à entrer dans une nouvelle mentalité de non-esclave, de fils et de filles, du roi des rois, de celui à qui toute la terre appartient. Dieu t'a donné, Dieu a tout payé en Christ, Dieu a tout accompli, c'est à toi. Est-ce que je vis une vie chrétienne dans cette mentalité? Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas un orgueil mal placé ou une sorte de déclaration comme quoi je suis au-dessus des autres. C'est une mentalité de propriétaire. Est-ce que quand je prie, je suis dans cette mentalité de dire « ça m'appartient, c'est à moi » ou est-ce que je suis dans une mentalité de locataire ? Est-ce que je peux demander à ça ? C'est pas moi le propriétaire, il faut que je demande l'autorisation à mon chef, à mon bailleur, parce que sinon je ne peux pas installer une machine à laver chez moi. Je ne suis pas chez moi. Où est-ce que je suis chez moi ? Et je développe. Je veux développer, je veux agrandir cette maison. Je veux poser un lave-vaisselle là, un lave-linge là. Et je dois demander à personne, c'est chez moi. Dieu veut nous encourager. Et Dieu veut nous encourager à entrer dans cette dimension de foi. Et c'est ce qu'il va dire à Josué, il va vraiment l'encourager. Il va lui demander de quitter les regards craintifs qu'il a pour entrer dans un regard d'assurance par rapport à ce qu'il va faire, un regard de foi. Voilà tout ce qu'il va dire, tout ce que Dieu va lui dire. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain. Ça, c'est dynamique. Hein. Il dit, maintenant, il faut y aller là. Et il va lui dire, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Personne. Nul, c'est quand même assez absolu. Je suis avec toi comme je l'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage. C'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays. Fortifie-toi, il répète, afin de réussir partout où tu iras. Waouh. Tu mèneras bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Il commence à lui dire, mais c'est encore un ordre. Vas-y. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Et j'en ai recensé 13 comme ça, 13 paroles qui suscitent la foi chez Josué. Qu'est-ce qu'il avait besoin à ce moment-là? Et peut-être que c'est ce qu'on a besoin d'entendre, nous, ce matin encore, dans nos vies. Dans ce que Dieu nous demande de prendre, dans ce qu'il nous a dit, dans peut-être les défis que nous avons, peut-être dans le combat que nous vivons. Peut-être nous sommes aux portes d'un combat comme Josué, et nous sommes dans l'attitude de Josué, et nous avons besoin d'avoir cette foi, et Dieu veut nous encourager. Peut-être qu'on est dans un combat depuis des années qui fait rage, et le Seigneur aimerait nous encourager aussi à continuer, à continuer. Jésus va dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais vous savez dans quel contexte il lui dit ça? Il lui dit ça quand son frère est mort depuis plusieurs jours. Le contexte est compliqué. Et Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pour notre communauté, Dieu veut aussi nous faire entrer dans une nouvelle étape. Je pense que ça nous a été rappelé ces derniers temps, au travers aussi des orateurs de passage. Il y a eu des promesses qui ont été données aussi pour cette église, et Dieu veut nous faire rentrer dans une nouvelle étape. Et par rapport à ces promesses, on pourrait être dans la crainte, on pourrait être dans l'hésitation, on pourrait être dans le questionnement. Mais le Seigneur nous dit maintenant, vas-y, vas-y communauté, lance-toi. On a parlé des freins des fois, enlève ces freins-là, ces freins de peur, de crainte. Vas-y. Et la jeune génération aussi, qui veut servir Dieu, c'est compliqué. Le monde ne veut pas de Dieu. On a l'impression des fois qu'il ne le veut pas. Parce qu'il cherche quelque chose, en fait, qu'on a. Et on a besoin d'avoir cette foi. Vous avez besoin d'avoir la foi que Dieu est puissant. Que tout ça, ce monde vous appartient. Ça ne appartient pas à ce monde-là. Ça vous appartient à vous. Et vous avez besoin d'y croire et de vous lever pour le prendre. Parce que c'est conditionnel. Parce que c'est conditionnel. J'ai une citation de Archer, Gleason Archer, qui est un auteur biblique, qui parle du livre de Josué, il dit que le livre de Josué raconte l'histoire d'Israël depuis le passage du Jourdain par le peuple d'Israël jusqu'à la retraite finale de Josué et à son ultime exhortation. Un thème majeur est la puissance irrésistible du peuple de Dieu. Voilà le thème du livre de Josué. Waouh! La puissance irrésistible du peuple de Dieu. Mais il y a deux conditions. C'est conditionnel, les promesses de Dieu. Toujours, une prophétie est conditionnelle. Dieu peut dire des choses sur vous, mais il y a deux conditions. La première, c'est qu'il peut vaincre le monde et prendre possession de l'héritage promis à condition qu'il garde une confiance inébranlable dans la puissance divine. De croire ce que Dieu nous dit. De croire quand il nous dit « je te le donne ». De le croire. Et deuxièmement, ne laissez aucune désobéissance rompre l'alliance que tu as fait avec Dieu. Ça, c'est mon deuxième point que j'aimerais prendre avec vous maintenant. Donc, le pays est là, la jeune génération est là, elle peut le saisir, mais deux conditions, avoir la foi, ne pas avoir des regards inquiets, et la deuxième regard que j'aimerais voir avec vous, ne pas se détourner de l'alliance de Dieu. Ne pas regarder à gauche et à droite pour se détourner de la parole de Dieu. Rester proche de Dieu. C'est justement les versets 7 et 8 que j'ai sautés ce matin, que j'aimerais un peu m'attarder maintenant. On va les lire ensemble. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi. La loi que Moïse avait reçue au Sinaï, la loi de Dieu, que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, vous avez vu, c'est conditionnel, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique, pas seulement observer, on va y revenir, tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et si on regarde la structure du récit, c'est intéressant de voir que ces deux versets viennent vraiment un peu en sandwich entre les versets que je vous ai lus avant, 1-6, où on voit vraiment Dieu qui rassure Josué, qui l'encourage, qui lui rappelle les promesses qui ont été faites à Moïse et qui sont pour lui, et le verset 7-8 qui est plutôt une mise en garde finalement. Reste attaché à cette parole. Et après, il y a de nouveau cet encouragement, cette promesse. C'est intéressant de voir comment cela est construit. Et comme je vous l'ai dit, la victoire de Dieu est conditionnelle. Est conditionnelle, finalement, pas parce que le problème serait du côté de Dieu. Et ça, c'est important de le comprendre. Dieu, tout lui appartient. Dieu te dit, je te le donne. Ce pays est à toi. Donc le problème n'est pas du côté de Dieu, mais du côté de l'être humain, de nous. La difficulté, elle est plutôt de notre côté. Est-ce que je vais croire ce que Dieu va dire et est-ce que je vais rester attaché à lui? Et la force du peuple d'Israël n'était pas dans ses capacités humaines. Il faut juste se mettre à leur place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un immense pays qu'ils doivent prendre. C'est un peuple plus avancé à déloger technologiquement parce que l'archéologie a démontré que ces peuples étaient bien avancés sur plein de points. On a même retrouvé des canalisations dans ces pays. Donc il y avait une avancée, une technologie qui était là. Donc il y a des villes fortifiées. Donc là, sa force à ce peuple n'est pas du tout dans sa capacité militaire. Mais sa force, elle est dans son attachement à Dieu. Parce que sa force, c'est Dieu et c'est la puissance de Dieu. La force du peuple d'Israël, c'est de rester attaché à Dieu. Le secret de la victoire pour le peuple d'Israël, c'est sa proximité avec Dieu. Et c'est sa proximité avec la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu révèle qui est Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, vous lisez la loi de Dieu, vous lisez ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, vous lisez qui il est, et la loi révèle qui est Dieu. En pratiquant la loi, nous nous attachons à lui, et nous nous rapprochons de lui. Et comme on a parlé de sainteté ce matin, à un moment donné, Dieu va déclarer dans le livre du Lévitique, au peuple d'Israël, va dire, vous serez saints, car je suis saint. Qu'est-ce que c'est la sainteté avant d'être des choses morales, soi-disant, à faire? Fondamentalement, dans la pensée biblique, la sainteté, c'est le mot « mis à part ». Sainteté, c'est vous n'appartenez plus à ce monde et surtout à ce monde d'idoles. Vous m'appartenez, vous êtes ma propriété. Dans la pensée biblique, la sainteté, c'est être la propriété du Seigneur. C'est lui appartenir. Et quand on est la propriété de Dieu, on devient comme lui. Parce qu'on est avec lui. Vous savez, quand vous êtes avec des personnes, quand vous vivez longtemps toute votre vie avec un conjoint, il y a des grandes différences, peut-être, entre certains conjoints. Il y a des conjoints plus fusionnels, il y a des conjoints plus différents. Vous, avec les années, à force de vivre avec une personne, vous prenez un peu d'elle et lui prend un peu de vous. Il y a quelque chose qui se passe où il y a vraiment, dans la communion, il y a une transformation lente et progressive. Et quand on est avec Dieu, sa présence, qui il est, sa loi, quand on la connaît, nous transforme et nous amène à être différents et nous lui appartenons. David a terrassé Goliath, pas parce qu'il était plus fort que Goliath. Pas parce que il était plus intelligent que Goliath. Pas parce qu'il avait une armure, il n'en avait pas. Pas parce qu'il était... Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il a vaincu Goliath parce qu'il était attaché à l'Éternel. Parce qu'il savait la force et la puissance du Dieu qui servait. Et il a dit à Goliath, je viens au nom de l'Éternel des armées. Je ne viens pas au nom de ma force, de qui je suis. Je viens au nom. Et le nom de Dieu, c'est sa personne et sa puissance. L'a accompagné et il a terrassé. Et on le verra par la suite, la prise du pays va se faire de manière extraordinaire. Quand ils prennent Jéricho, ce n'est pas par succès et tactique militaire, c'est par la puissance de Dieu. Quand les murailles de Jéricho tombent, c'est juste la puissance de Dieu. Et Dieu leur rappelle ça. Dieu rappelle ça à Josué et à tout le peuple, que la puissance du peuple ne dépend pas de vos capacités humaines. Et je vous le dis ça à la jeune génération, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'études, de spécialistes. L'autre jour, à la radio, j'entendais même un spécialiste du comportement pour un truc tout bête. Et j'en parlais avec ma femme, je disais, mais en fait, c'est juste le bon sens, quoi. Il faut des psychologues, des spécialistes pour parler de ça. Juste en réfléchissant, on se disait avec mon épouse, mais c'est juste le bon sens, quoi. Et il y a des spécialistes. Maintenant, on a tout. On a une connaissance. On parle de l'intelligence artificielle. On a accès à une connaissance comme jamais. Mais tout ça ne remplacera jamais la puissance et la proximité de Dieu. Ne mettons pas notre confiance là-dedans. Bien sûr, consultons, intéressons-nous. Mais soyons bien conscients que la victoire spirituelle dépend vraiment de Dieu et de sa proximité. Le temps passe trop vite, alors je vais passer rapidement sur le verset 7-8, et j'aimerais terminer avec ça. Il y a plusieurs choses qui apparaissent dans ce verset. Comment être attaché avec Dieu? Premièrement, observer. J'ai mis un petit 1 à côté. Observer. Observe la loi. Observer, ça veut dire la lire, tout simplement, la connaître. Comment on peut connaître Dieu si on ne lit même pas sa parole? Moi, je me pose des questions. La meilleure manière de connaître Dieu, c'est sa parole. C'est la Bible écrite. Parce que c'est Dieu qui se révèle, qui intervient dans l'histoire de l'humanité et qui parle et qui dit les choses. Au dimanche passé, on nous a parlé de la prière, de s'approcher de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Observe, lis la parole de Dieu, lis la Bible. Ce sont des paroles intelligibles, compréhensibles, qui sont présentes dans 66 livres, si je prends le Nouveau Testament. Il n'y en avait pas autant quand Josué, au moment où il a vécu. Mais aujourd'hui, nous avons 66 livres. C'est l'histoire, ce n'est pas juste des belles histoires pour nos enfants, la Bible. Ce n'est pas juste des histoires pour dire qu'est-ce que je vais parler aux enfants ce matin. C'est l'histoire, la narration du Dieu transcendant qui se révèle, qui parle dans l'humanité, qui fait des actes, qui intervient dans l'humanité. C'est comme ça qu'on peut le connaître. Sinon, on adore un Dieu qu'on ne connaît pas. Ou on a compris peut-être quelque chose, mais on n'a pas compris qui est vraiment Dieu pleinement. Et il y a besoin de passer du temps à lire cette parole pour la connaître, pour connaître Dieu. Passer plus de temps avec lui. Prendre du temps pour le connaître. Prendre du temps pour cette parole révélée complètement en Jésus-Christ. Jésus et Christ a été la parole faite chair. C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles pour Jésus. Pour ça que la Bible s'attarde 4 fois plus. Parce que c'est la parole révélée faite chair. Prenons du temps pour lire la parole de Dieu. Et pas seulement la lire de manière intellectuelle, parce qu'il est dit dans ce texte de méditer. Je crois qu'il est dit que ce livre, tu y méditeras jour et nuit, c'est écrit. Tu méditeras jour et nuit pour observer. La connaissance, c'est bien, mais méditer, c'est encore autre chose. Méditer, ça fait référence d'ailleurs, c'est ce mot, fait référence au psaume 1, heureux celui qui médite la loi de l'Éternel, hein, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Méditer, ça veut dire, c'est un mot hébreu pour dire murmurer. C'est pour, je crois, sauf erreur, répéter à mi-voix. C'est se laisser imprégner, c'est en faire une nourriture, c'est laisser parler le texte, laisser nous parler à nous-mêmes. Et je pense que c'est bien d'avoir les deux, de lire la Bible de manière globale et de prendre des temps plutôt sur une méditation personnelle, une nourriture de tous les jours. Parce que cette parole, elle nous parle, elle est vivante. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, l'Église a développé des disciplines spirituelles. Parce que pour être un chrétien, qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de Dieu et vivre avec Dieu? Eh bien, elle a mis en place des disciplines, des choses, des voies royales que si on met en application, eh bien, on va pouvoir vivre cette proximité avec Dieu. Et il y en a plein. Elle cite la méditation, la discipline de la méditation, la discipline de la prière, la discipline du jeûne, la discipline de l'étude, la discipline de la simplicité, il y en a 12, hein, la discipline de la solitude, de la soumission, du service, de la confession, de l'adoration, de la direction, de la célébration. Il y en a même encore d'autres. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la lecture de la Bible, il y en a 2 différentes. Il y a la discipline de la méditation et la discipline de l'étude, qui sont 2 choses différentes. Parce que quand on médite, on est vraiment dans cette recevoir une nourriture, ruminer sa parole, laisser Dieu nous parler, avoir une nouvelle révélation. Mais quand on étudie, on fait appel à notre intelligence, qui a besoin aussi d'être renouvelée. Et quand on étudie, on a besoin aussi de ne pas juste lire un verset ici, un verset là, un verset par-ci, un verset par-là. On a besoin de comprendre ce qu'on lit. Il y a un contexte, ça a été écrit une époque. Il y a besoin d'étudier, il y a besoin de transpirer. Et il faut les deux modes de lecture de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que ce texte-là a été écrit avec une intelligence. Dieu a parlé dans des coutumes à un peuple, à une époque particulière. Et il nous faut ces deux modes de lecture. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de lire peut-être plusieurs traductions pour ne pas mal comprendre ce que le texte voulait me dire. Ça, c'est pour s'attacher à Dieu, c'est observe la loi. Observe-la. Mais il y a aussi mettre en pratique. Mettre en pratique. Il ne faut pas juste connaître, il faut mettre en pratique. Et ça, c'est toute la pensée hébraïque. Jésus va faire des sévères reproches aux pharisiens, pas parce qu'ils ne connaissent pas la loi, mais parce qu'ils ne la mettent pas en pratique. Jésus va faire des reproches très durs aux pharisiens, pas parce qu'ils enseignent des choses fausses, quoiqu'il avait une herméneutique un peu différente, Jésus, mais parce qu'ils enseignent ce qu'ils ne vivent pas. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et on ne peut pas, dans la pensée biblique, découpler la connaissance intellectuelle, la connaissance de la parole avec la mise en pratique. Le temps passe trop vite, mais j'avais envie de développer quelque chose dans la pensée juive. La halakha, c'est la règle de conduite, c'est aller marcher. Il y a cette idée de la loi est là, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de tous les jours pratiquement? Et c'est pour ça que la loi juive a développé tellement de choses qu'à un moment donné, les pharisiens s'étaient perdus. Parce que dans la pensée juive, qu'est-ce que ça veut dire aimer mon prochain? Ok, la loi dit aime ton prochain, mais ça veut dire quoi? Concrètement, dans ma vie de tous les jours. Ok, j'aime mon frère. Qu'est-ce que je dois faire pour lui démontrer mon amour concrètement? Est-ce que je dois l'appeler une fois par semaine? Deux fois par semaine? Trois fois par semaine? Est-ce que je dois lui offrir un cadeau seulement à son anniversaire? Ou peut-être plus, est-ce que c'est suffisamment de l'aimer si je l'offre qu'à son anniversaire? Vous voyez ce que ça veut dire? Concrètement, dans la pratique. Et ça, c'est tout à fait la pensée juive. C'est pour ça qu'ils sont allés tellement loin à un moment donné qu'ils se sont perdus. Et il y a une loi qui doit être aussi écrite dans le cœur, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est mon comportement spécifique? Qu'est-ce qui fait que j'applique la loi de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'appartiens à Dieu ou pas? Qu'est-ce qui fait la différence? Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, c'est le troisième point par rapport à ça. Et il y a aussi le mot tout, hein, toute la loi. Je passe rapidement parce que j'avais bien des choses à dire. La principale source des fausses doctrines est la mise explicite et de mettre l'accent sur un point de l'écriture au détriment d'un autre. Et ça court dans toute l'histoire de l'Église. Et des fois, il y a des pressions sociales ou il y a des mouvements et on va mettre plus l'accent sur quelque chose au détriment de l'autre, sur certains versets au détriment d'autres. Et on peut vivre aujourd'hui aussi de certaines pressions pour ne plus parler de certains aspects de l'écriture et nous faire dévier justement, aller à droite ou à gauche, nous faire dévier, mettre plus un accent à gauche plutôt que et perdre cet équilibre finalement qu'est l'écriture, de ce tout. Nous devons enseigner toute l'écriture. Et pas parce que ça déplaît de mettre certains enseignements de côté. Paul va, dans son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, il va leur dire « Je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Et il va dire « Je sais qu'à parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. » Donc il y a des faux enseignements, il y a des faux docteurs, ça existe. Et même l'apôtre Paul parle à un moment donné de doctrine de démons. Donc de séduction intellectuelle aussi, qui peuvent nous faire dévier en mettant l'accent, en ayant une subtilité. Ça ressemble à l'évangile, mais ce n'est pas à l'évangile. Et nous faire dévier de ce subtil équilibre qu'est la Bible et la parole de Dieu. Voilà ce que Paul, ce que Dieu dit à Josué dans tout ce que nous avons vu. Et je termine avec cette... est-ce qu'ils ont réussi à prendre tout le pays ? Comme au match de foot. Est-ce que je l'ai gagné ou pas ce tournoi ? Ben en fait, je n'ai pas gagné. On n'a pas gagné le tournoi. On est allé en finale, en fait. Mais on est tombé sur une équipe. Tel niveau. On ne voyait même pas la balle passer. Ça me rappellerait toute ma vie. Tellement arrivé à deux doigts de gagner. Mais dans le cas de l'histoire d'Israël, c'est un petit peu ça. Parce que les limites qu'on a lues tout à l'heure, que Dieu a données à son peuple Israël, elles ne seront atteintes qu'au temps de David et Salomon. Et on voit que même quand Josué arrive à la fin de sa vie, le pays de Canaan n'est pas totalement conquis, délivré. Et même dans les juges, ça va continuer, et ça va continuer, et continuer. Le problème, ce n'est pas dans la promesse de Dieu, de nouveau, mais dans la défaillance de l'être humain vis-à-vis de l'alliance de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu dit. Et je termine avec cette citation de Brian Tidyman, qui a écrit un précis de doctrine, qui va dire « Bien que les grandes campagnes qui suivent donc, ce passage du Jourdain ne révèlent aucune faute de la même gravité, parce que c'est par rapport au contexte d'avant, on entrevoit le début de la gangrène spirituelle en Israël, prêt à vendre son héritage pour quelques richesses matérielles et disposé à s'enfranchir d'une tutelle jugée trop contraignante. Tout de suite après la désobéissance d'Akan et l'alliance avec les Gabaonites, Dieu, semble-t-il, freine un temps la conquête. Ces signes de déclin du peuple élu se multiplieront vite après la disparition du vieux chef. » Et on le voit dans l'histoire aussi des juges. Voilà. Je vous invite juste à la prière et j'invite juste Jonathan, si tu veux venir jouer pour terminer ce temps, un peu de temps où on veut se placer devant Dieu. Seigneur, ce matin, comment est-ce que je réagis face à tes promesses pour ma vie ? Comment est-ce que je réagis face aux morceaux de terre promises qui sont devant moi, qui sont dans ma vie ? Et Seigneur, je te prie pour cette jeune génération aussi, Seigneur, qu'elle puisse être dans cet héritage, dans cette continuité, mais en même temps, tu lui donnes une intelligence renouvelée, tu lui donnes une vision nouvelle, un feu nouveau pour saisir les lieux que tu lui donnes, Seigneur. Communique-lui la foi, communique-nous ta foi encore. Que nous ne soyons pas des gens incrédules, mais que nous soyons des gens qui croyons que tu nous donnes et que nous soyons fidèles à ta parole, attachés à ta personne. Seigneur, bénis ton peuple. Alléluia, Jésus.